Moi, je vous parlais du risque plus général, sur un plan plus général, à partir de ce qu'est l'expertise scientifique. Ce sujet, je l'avais déjà abordé il y a 3 ans, plus dans l'optique des relations des experts avec les politiques. Là, je vais aborder le travail de l'expert. Parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas beaucoup et qu'on ignore. Et c'est intéressant, nous, à titre de zététiciens, de savoir comment s'effectue une expertise. Alors d'abord, on va commencer par définir la place. Hein. Définition et place de l'expertise. L'expertise, alors je vais en donner un. C'est distingue la compétence scientifique. C'est une évaluation pluridisciplinaire du risque et à destination du décideur, qui est en général un politique, un juge, éventuellement un journaliste, qui la demande. Donc c'est une mesure du risque. J'ai oublié de mettre l'essentiel, en fait, dans cette définition. C'est une mesure du risque, donc, qui est distincte de la compétence scientifique. On verra pourquoi, justement. Ses caractéristiques.
Dis plutôt ce qu'il y a sur l'écran, mais ouais. Sinon, déjà que tu ne parles pas très fort, mais je pense que t'entendre. Bon, t'entends, moi ça va.
Oui,
hein,
mais... oui. Ses caractéristiques. Les caractéristiques donc de l'expertise, c'est qu'elle est ponctuelle et ciblée dans le temps et sur le sujet. Elle fait le point à partir d'analyses d'articles scientifiques publiés, en général dans les revues à comité de lecture. C'est ce qu'il y a de mieux. À condition de prendre les meilleures revues. Et le but, c'est d'émettre des recommandations, un rapport d'expertise qui est souvent public, mais on va voir dans quelles conditions ce rapport d'expertise est publié. Donc il est à destination des décideurs et il émet des recommandations. Les acteurs de l'expertise, en général, c'est rarissime qu'il y ait un seul expert. Les sujets sont devenus trop compliqués. Et donc, on a affaire à un panel d'experts et un responsable de l'expertise qui va se charger de la synthèse pour présenter le rapport d'expertise. Et depuis longtemps, en fait, les organismes de recherche comme le CNRS, l'INSERM, l'INRA ont aussi une activité d'expertise et de conseil. Et maintenant, ils publient même, pour ce qui concerne l'INSERM, ils publient même un certain nombre de rapports d'expertise sur différents sujets qui sont accessibles sur le web. Vous allez sur le web et vous tapez INSERM, rapport d'expertise, et vous trouverez facilement l'information. C'est très intéressant, les sujets qui sont abordés. Il y a la psychanalyse, il y a l'autisme, il y a, je crois, la vaccination. Enfin bon, il y a tous les sujets chauds du moment, quoi. Alors j'avais prévu de définir un peu mieux ce qu'étaient les devoirs et l'éthique de l'expert. J'ai manqué de temps et comme vous verrez que pour le reste, il y a encore pas mal à dire, j'ai laissé ça de côté. Je vous donne une référence à la fin qui est du COMETS, un comité d'éthique du CNRS. Et en fait, l'essentiel de ce que j'aurais pu dire sur l'éthique du chercheur, enfin de l'expert, elle se trouve dans ce rapport, avec une différence entre l'expertise interne et l'expertise à destination du grand public. Évidemment, parmi ces devoirs et cette éthique de l'expert, il y a l'indépendance. Hein. Je crois que j'avais abordé ça dans le précédent exposé. Je ne vais pas en reparler là maintenant. De toute façon, vous trouverez tout ça dans le rapport du COMETS. Et j'aborde maintenant le travail de l'expert. Et le travail de l'expert, je l'ai fait à partir d'un ouvrage publié par Bernard Chevassieu-Louis. C'est pas le même que Je ne sais pas s'ils sont de la même famille, il y a des chances, mais bon. Bernard Chevassieu, lui, il a le même âge que moi, il est né en 49. Nicolas, il est né en 72. Louis. Nicolas, j'ai été regarder, il est né en 72. Ça pourrait être son fils, ou ça pourrait être son neveu, enfin bon. Hein. Alors, définition du risque, et pas de l'expertise. Définition du risque, il s'agit de savoir de quoi on parle. C'est un phénomène qui n'est pas inéluctable, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il n'est pas sûr qu'il va se passer, mais par contre, qui a des effets néfastes sur la société. Et l'analyse du risque, elle va comprendre un certain nombre de procédures qui vont aller de la perception d'un risque potentiel. En général, c'est dans le grand public qu'on se pose des questions. Et donc, à ce moment-là, les politiques missionnent une enquête par des experts scientifiques pour aller y regarder de plus près. Lancement du signal d'alerte, c'est une autre manière d'alerter les politiques. Le travail proprement dit de l'expert, qui est une évaluation et une quantification du risque, il va falloir voir ces deux aspects-là. Évaluation et quantification du risque, c'est le travail proprement dit de l'expert. Au début, c'est le travail de la société, et à la fin, c'est mise en œuvre de mesures de protection approprié, et ça c'est une décision politique. Il faut bien faire la différence entre ce qui relève du décideur, du politique, et ce qui relève de l'expert. L'expert n'a pas à décider. Lui, il apporte seulement un avis. C'est tout. Si il se mettait à décider, on tomberait dans une... On passerait de la démocratie à la technocratie, je crois. Et la technocratie, c'est pas terrible. Donc, l'expert reste à sa place et le politique aussi. Alors, qu'est-ce que le risque ? En fait, Chevassieu-Louis a recherché l'historique de l'expertise. Auparavant, dans le passé, on se posait pas de questions. Il y avait un nouveau produit, un médicament ou quoi que ce soit, on le vendait et puis on regardait sur la population s'il y avait des risques ou s'il y en avait qui commençaient à battre de l'aile, c'était mauvais signe. Donc,
avant la télévision, on
ne
regardait même pas.
Avant la thalidomide, on ne regardait même pas. Mais la thalidomide, c'était bien visible, par contre.
Il y a avant thalidomide et après.
Mais thalidomide, on est passé à une expertise par des experts. On n'est pas dans l'évaluation du risque en temps réel. C'est-à-dire a posteriori, par les utilisateurs eux-mêmes. Ça, c'est la vieille situation. Et vous verrez qu'en fait, on retrouve cette situation dans le modèle, ce qu'il appelle le modèle standard, qui est la situation actuelle de l'expertise. Donc aujourd'hui, on a affaire à une évaluation a priori, c'est-à-dire avant toute utilisation du dispositif, par le recours à un expert médiateur entre la science ou la technologie et la société qui lui délègue la mesure du risque. Donc ça, c'est le processus tel qu'il se déroule aujourd'hui. Alors, juste un petit mot en passant, science et technologie, c'est pas tout à fait la même chose. Et en réalité, Chevassieu-Louis utilise un peu les deux de manière équivalente. Il faudrait en toute logique parler de technologie, parce qu'en fait, ce sont des produits qui sont destinés à être diffusés dans le grand public, qui sont issus des résultats de la science, mais qui ne sont pas de la science à proprement parler. C'est de la technique, de la technologie. Alors, c'est ce deuxième modèle aujourd'hui, que lui appelle le modèle standard, le modèle classique. Enfin, les physiciens m'en diraient s'ils m'entendaient parler de modèle standard. Pour eux, le modèle standard, c'est le modèle standard de la physique. Bon. Là, c'est histoire de préciser à quoi on a affaire. Et ce modèle standard, il se divise en trois étapes. Une évaluation du risque par les experts. une gestion du risque par des décideurs, et là encore on retrouve la séparation claire entre l'expert et le politique. Le décideur, c'est le politique ou c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui décide d'utiliser ou pas la technologie. Et une communication des résultats de l'analyse, rapport d'expertise, information du public et des par les politiques. En général, on verra ça tout à l'heure, mais les rapports d'expertise ne sont pas d'emblée publics. C'est pas le rôle de l'expert de publier lui-même les rapports. Il les confie à l'instance qui l'a mandaté, ne serait-ce que parce que justement, rendre public un rapport, c'est introduire une influence de l'opinion sur la future décision du politique. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas éthique. L'expert ne doit pas interférer dans la décision finale. Lui, il ne fait qu'apporter l'information.
On verra
peut-être discuter. Oui. Et puis même, il y a ce que je disais tout à l'heure, l'INSERM maintenant prend l'initiative de mandater des études qui sont conclues par des rapports, et ces rapports sont publics. Et ils sont très intéressants, je vous conseille. Encore une fois. Oui, c'est pas des documents administratifs, là. C'est vraiment des documents qui visent à démontrer, c'est comme pour la psychanalyse, ce que je disais tout à l'heure. Voilà.
Les rapports qui sont communiqués à l'administration, et sur lesquels ils se font pour prendre des décisions, ce sont des...
Oui, c'est le modèle, que j'ai explicité juste avant. Là, toujours la même chose, on a des modèles, un modèle principal et puis des variantes. Et là, c'est l'INSERM qui, de son propre fait, en tant qu'organisme de recherche médicale, a choisi de mener des expertises et de les publier. C'est elle qui est à la fois le maître d'œuvre par les chercheurs qui font partie de l'organisme, et le décideur de publier. Et la décision se cantonne à ça. Après, au-delà, ça va...
Il y en a un par an,
je
suis sur le site.
Oui. Oui, non, ils n'en font pas. Non, ils n'en font pas énormément, mais enfin, il y en a quand même. Il commence à y en avoir une liste. Hein. T'en as combien là?
2016, un rapport sur les déficiences intellectuelles. En 2015, activité physique et prévention des chutes chez les personnes âgées. 2014, conduite addictive chez les adolescents. Donc c'est quand même.
Non, il y en a plus que ça.
Ça s'appelle les expertises collectives. Il y a fait autre chose.
Ouais. Je suis allé sur le site il n'y a pas très longtemps et il y a une liste de... Bon, c'est pas grave. Alors, l'évaluation du risque, elle implique d'abord un certain nombre de présupposés. C'est le terme que Chevassieux, lui, utilise. Présupposés de l'évaluation du risque dans le modèle standard. Et ces présupposés... donc ce sont des options explicites ou implicites. Le plus souvent, là on va voir que c'est plutôt des préconisations explicites. C'est le rôle de cet ouvrage d'expliciter ce que c'est que l'évaluation du risque. C'est une évaluation au cas par cas. Et par exemple, dans le cas des OGM, il est évident qu'on ne peut faire qu'une évaluation au cas par cas. Chaque OGM est différent. N'en déplaise à l'observateur et ça a une scandaleuse. Les OGM sont les poisons.
Le nom d'un journal.
Hein ? L'Obs, oui.
Alors, sinon, on ne comprend pas.
Non. L'Obs, le journal, l'Obs. Enfin, à l'époque, le nouvel Obs, en fait, c'était. Qui avait publié à l'époque de Séralini, c'était un contrat entre Séralini et le nouvel Obs. Et eux, ils étaient allés dans le sens de Séralini, ils avaient publié une. Les OGM sont des poisons. Remarquable. Ben, franchement, une généralité qui n'a pas lieu d'être. Donc, évaluation au cas par cas. Une analyse fondée sur la science établie C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypothèse ni spéculation. Si la science n'est pas établie, on n'a pas à faire de l'expertise. La science, elle se base sur l'expertise, elle se base sur le connu. Pas sur les hypothèses, pas sur la recherche en train de se faire. Ça, c'est de la recherche.
Le fameux risque zéro.
On va en parler du risque zéro. Oui, on va en parler du risque zéro, parce qu'effectivement, ça, c'est le modèle standard. On va voir que en fait, on va élargir cette notion du modèle standard d'évaluation du risque pour prendre en compte des choses qui n'étaient pas prises en compte auparavant et qui ont fait problème dans la population. Et le principe de précaution est le point de départ pour essayer de changer les procédures d'évaluation du risque. On aboutit à une quantification parce que l'expert, c'est un scientifique et qu'il aime bien comparer. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour comparer si ce n'est une valeur numérique? Donc, on quantifie. Et c'est le produit d'un effet par une probabilité. Par exemple, le nombre de personnes exposées à la probabilité de décès. Et ça permet de comparer divers traitements pour voir, si on file ce médicament-là, à 90% de décès, c'est pas bon du tout. Et puis, voilà. Pas de processus d'ajustement avec le décideur. Ça, c'est une composante de l'indépendance. S'il y avait un ajustement, le décideur influerait sur l'expertise. On introduirait un biais qui n'est pas acceptable. L'évaluation suppose que le produit sera utilisé de manière conforme, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte les utilisations anormales. Il y a à peu près autant d'utilisations que d'utilisateurs. C'est impossible de prendre en compte les différentes utilisations. Il y a des recommandations pour l'utilisation conforme du produit. On prend ces recommandations et on fait une évaluation du risque dans ces conditions. Évaluation du risque seul. Dans l'expertise traditionnelle, c'est le risque seul qui est évalué. En ce qui concerne le bénéfice, en particulier pour les médicaments, il va faire l'objet d'une évaluation en général indépendante. Ce n'est pas le même qui va faire l'évaluation du risque et du bénéfice. Et là, encore une fois, la décision, c'est le politique ou le chef d'entreprise ou le patron d'hôpital qui va prendre la décision de l'utiliser. Hein ? Oui, l'agence du médicament. Voilà. Et la communication, qui est très importante, ça fait partie des procédures de l'évaluation et qui est destinée, dans ce modèle, à réduire la distorsion entre le risque réel et le risque perçu. Et la notion, elle est importante. Il est évident que ce risque réel, c'est le risque objectif, mais le grand public, lui, il s'en fout, hein, lui, il voit le résultat. Hein. Donc c'est un risque perçu qu'il utilise. Et on aboutit à une situation où on a... Enfin, lui, il propose un graphe où il met en abscisse la certitude du risque, c'est-à-dire les risques non avérés versus les risques avérés, et la sévérité du risque en ordonnée, ce qui permet de voir qu'on a une zone de prévention et puis une zone... Dans la majeure partie du plan, on se situe dans l'ancien modèle. On attend que le risque soit expérimenté par la société. On appliquera un correctif, indemnisation par l'État ou les assurances, etc. Lorsque le risque est à la fois élevé et sévère, alors ça va être sujet à discussion, ça aussi, hein, évidemment, et en particulier par les experts, on va introduire des régulations ou des interdictions. Alors, se pose tout de suite le problème, parce que ça c'est la situation idéale, se pose tout de suite le problème de la défaillance de l'expertise. L'expert, c'est quelqu'un comme vous et moi, c'est un être humain, il fait des erreurs, il peut oublier des choses, etc. Et puis, il n'est pas tout seul. L'expert sera soumis aussi bien aux critiques de la société, en général c'est donc assez net, les médias s'en chargent, mais aussi de la communauté des scientifiques qui sont les pairs de l'expert. parce que la science verra son image entachée et qu'elle cherchera à la corriger. Alors, pour ce qui concerne les critiques externes, c'est-à-dire par les politiques et les citoyens, on a, par exemple, apparition de dangers graves non identifiés lors de l'expertise. Il faut savoir que, quand on fait une expertise, on va faire un cahier des charges où on va définir tout ce qu'on va tester. Et ça demande une sacrée dose d'imagination pour faire cette liste, et on n'est pas à l'abri d'en oublier. Par exemple, un exemple qu'il cite, c'est le cas de la fusée Ariane 5. Il est rigolo, donc je vous le cite. Donc la fusée Ariane 5, elle a été construite après Ariane 4, et à partir, puisque Ariane 4 était une bonne fusée qui marchait bien, à partir des éléments d'Ariane 4, lors du premier tir d'essai. Le régulateur du tir a vu une alerte de vitesse horizontale excessive. Il a supposé que la fusée avait changé de trajectoire et qu'elle était en train de retomber. Donc il a appuyé sur le bouton destruction. Ça coûte cher, hein, une fusée Ariane 5. En réalité, le détecteur de vitesse horizontale, il était calibré pour Ariane 4, pas pour Ariane 5. Et donc, la trajectoire de fusée était parfaitement conforme. Simplement, comme c'est une fusée plus puissante, elle allait plus vite. Et donc, le capteur a vu une vitesse horizontale anormale et en a déduit que... il y avait un danger de retomber de la fusée. La fusée a été détruite avec une fusée qui marchait parfaitement bien. Donc,
je vous encourage à aller voir une start-up montpelliéraine,
ouais,
qui s'appelle Numalis, avec Lou Lalaine, qui a développé un logiciel tout à fait unique au monde pour justement résoudre ces problèmes d'erreur,
ouais,
notamment avec l'espace, dans l'espace, au niveau des logiciels. Donc c'est assez unique, on est en train d'étudier son...
Bah, tu me passeras les références. Comment ça
Humanis, N-U-M-A-I-S.
D'accord.
C'est le nom de la start-up. C'est Montpellier.
Montpellier, on n'est pas mauvais. Donc, c'est ce qu'on appelle la défaillance de mise sur l'agenda. C'est-à-dire que ce risque, comme par exemple ici le détecteur d'Ariane 4, il fonctionnait parfaitement avec Ariane 4, il n'y avait pas de raison de le mettre sur l'agenda. Sauf que, t'es mal calibré. Et on peut rencontrer ce genre de situation assez fréquemment. On a des risques qui sont mal évalués à cause de paramètres qui ne sont pas testés. Désaccord entre experts, ça c'est important aussi. La remarque type, c'est comment pouvez-vous ne pas être d'accord entre vous alors que vous fondez tous sur de la vraie science ? C'est frappé au coin du bon sens, hein ? Ouais. Et bien pourtant, il arrive qu'il y ait des désaccords, et en particulier ce qu'il cite, c'est le SB, l'encéphalopathie spongiforme bovine, où il y avait un désaccord entre experts français et experts anglais. On comprend bien un petit peu pourquoi il y avait des accords entre experts français et experts anglais, parce que dans un cas, du côté des experts français, il s'agissait d'interdire les vaches, et dans l'autre cas, ça faisait des pertes pour le Royaume-Uni, donc la tentation, c'était de forcer l'exportation des vaches sur le continent. Même chose pour les OGM. Les OGM, les Américains, vous les interrogez, ils vous disent nous, ça fait 20 ans qu'on bouffe des OGM. Vous voyez, on est normaux. On n'a pas pas viré à la couleur verte. On est normaux.
Les gaz de schiste.
Voilà, les gaz de schiste. Une importance croissante des erreurs humaines. Ça, j'en avais parlé tout à l'heure. Ça apparaît donc avec la technicité croissante des objets testés, des produits testés. C'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué et il peut y avoir des erreurs d'utilisation. Le processus n'est pas utilisé dans les conditions où il devrait être utilisé. En fait, les experts ne peuvent pas vraiment évaluer les risques réels. Ils ne peuvent évaluer des risques que dans certaines conditions bien définies, parce que sinon, on aboutit à une infinité de tests possibles et on n'a plus rien de testable en pratique. On ne peut pas apporter de réponse. L'apparition des risques systémiques, encore une fois, Ariane 5, c'était ça, hein, c'est-à-dire un capteur qui n'était pas fait pour elle, et puis qui n'a pas interagi comme il fallait avec, avec les paramètres de la fusée. C'est des interactions entre systèmes, des intégrations, etc. On va en reparler des risques systémiques, c'est important. Et non, prise en compte de certains risques, par exemple, du fait des accords de l'OMC, il y a certaines discussions qui ne peuvent pas avoir lieu, et donc on considère que ces risques sont non éligibles. Donc, dans la communauté des experts, plutôt que de faire un test qui servira à rien parce qu'il va être immédiatement contesté, eh bien, ces risques non éligibles ne sont pas testés. Critique interne. Ça, c'est la science, cette fois-ci. La science qui va apporter une critique sur l'évaluation du risque. En particulier, on trouve qu'il y a une limite de la prédictibilité. Il y a des phénomènes, en particulier des phénomènes non linéaires, chaotiques, qui sont difficiles à prédire. Il y a des modèles qu'on peut élaborer pour ça, mais en général, ça reste difficile. Par exemple, le point carré, on s'imagine que le système solaire est monté sur des trajectoires qui vont durer éternellement. Ben, c'est pas vrai. Le système solaire.
Poincaré, le physicien.
Oui, le physicien. Non, Poincaré, le physicien, c'est marqué. En réalité, c'est pas le cas. Le système se désynchronise et on a calculé, par exemple, que pour ce qui nous concerne, on avait environ 100 millions d'années avant qu'il y ait des problèmes. Ça nous laisse le temps de voir venir. La météorologie, vous connaissez tous la métaphore de l'aile de papillon. C'est un système chaotique et qui fait qu'il est très difficile de prévoir. Alors, c'est exagéré là, hein, mais c'est une métaphore qui montre que des effets qui peuvent sembler minimes peuvent aboutir à des ouragans en Caraïbes. Ce qu'on sait moins, c'est quand on teste, c'est qu'il y a effectivement une non-linéarité dans le temps. Donc on l'a vu, système chaotique, etc. Mais aussi dans l'espace. On a des systèmes qui ne sont pas homogènes. Le scientifique dira non-isotrope. L'isotropie, c'est l'homogénéité en langage scientifique. Ce sont des systèmes non isotropes. Par exemple, le sol en agriculture. C'est évident qu'on ne va pas pouvoir tester les produits phytosanitaires, par exemple, sur le sol tel quel. Ce qu'on va faire, c'est des prélèvements et on va essayer de rendre le sol homogène pour pouvoir tirer des conclusions. Bon, dans la mesure du possible. Hein. Des modèles de propagation d'incendies, de dispersion du pollen, etc., aussi sont des modèles qui sont non linéaires dans l'espace. Deuxième limite d'extrapolation. En pratique, l'expert ne dispose généralement pas des règles de transposition, par exemple un phénomène mal connu de la science, et pourtant, on lui demande parfois d'établir une norme. Alors c'est par exemple l'extrapolation des effets des faibles doses à partir de ceux mesurés sur des doses fortes. Hein, en toute rigueur, normalement, quand on calcule une valeur qu'on n'a pas mesurée, c'est ça, on va faire ce qu'on appelle une interpolation. En général, on l'a fait entre valeurs connues, où il y a eu une mesure, et où on a pu définir quelle était la loi de variation du phénomène. l'extrapolation, elle se situe en dehors des bornes, où on ne connaît pas précisément l'évolution du phénomène. Un autre problème, c'est la transposition de l'in vivo à partir de l'in vitro. Quand on fait des expériences de médicaments, des expériences de biologie à destination médicale, on fait des tests in vitro. Maintenant, on les complète par des tests in vivo. Le processus est devenu beaucoup plus compliqué, mais ça reste difficile parce que, par exemple, les tests sur l'animal ne sont pas directement transposables à l'homme. Voilà, donc ça, c'est les limites de l'extrapolation. Le problème de l'émergence, donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent apparaître au cours de l'évaluation d'un risque et qui échappent à l'expert. Le problème de l'émergence, souvent les propriétés d'un système ne peuvent être prédites à partir de celles de ses composants. L'exemple le plus facile à visualiser, c'est la molécule d'eau, H2O. Elle a certaines propriétés, en particulier d'être liquide à la température de 20 degrés Celsius. Ben ça, vous ne pourrez pas le prévoir. Celsius. 20 degrés Celsius. Elle est liquide à cette température. L'eau. Par contre, les composants, c'est l'hydrogène et l'oxygène, hein, H2O. Ils sont gazeux. Et il n'y a aucun moyen de prédire de manière fiable le passage de l'état gazeux normal à l'état liquide pour la molécule d'eau. On est dans une émergence d'un processus, de nouvelles propriétés qui apparaissent. Et puis, des objets imparfaitement compris, en particulier parce qu'ils ont été utilisés à une époque où la connaissance était beaucoup plus sommaire, c'est le cas de la vaccination, au 19e siècle, et même au 18e siècle, hein, la vaccination, ça a commencé. Évidemment, la connaissance du système immunitaire, elle était pour le moins sommaire. Hein. Donc, la discussion sur les OGM, elle fait intervenir des évaluations a priori, des expérimentations spécifiques, on va faire par exemple les expériences de Serralimi, un suivi a posteriori, protocole de biovigilance par exemple, et d'autre part, on sait que les OGM ne se réduisent pas à la connaissance du gène introduit et de son hôte. C'est plus complexe que ça, parce que le gène qu'on va introduire, c'est la définition d'un OGM, dans un environnement qui n'est pas naturellement le sien, en plus à une place qui n'est pas toujours la sienne, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'OGM ont été produits par insertion au hasard du gène, et donc il y a tout l'environnement génétique qui va influer sur l'expression du gène.
Donc,
pas seulement l'épigénétique, mais des phénomènes de régulation, d'extinction, etc. Tu vois, le gène est situé à côté d'un atténuateur, et hop, la production tombe. La décision. Et on en vient au principe de précaution, dont Philippe nous a abondamment parlé il y a quelques années, donc je ne vais pas refaire l'exposé de Philippe, hein, évidemment. Le principe de précaution, il peut s'énoncer, c'est l'énoncé qu'a choisi Chevassu, l'incertitude ne justifie pas l'inaction. C'est un énoncé assez classique. Mais quelle incertitude et quelle action ? Il faut être un peu clair. En 2007, quand Chevassu a fait sa conférence, au fait, oui, j'ai oublié de vous dire, le livre, c'est la transposition d'une conférence qu'il avait faite, très intéressante. Hein, le bouquin, vous pouvez le trouver à 8 euros. Et vraiment, il est remarquable et d'une clarté, le bouquin de Bernard Chevassu-Louis sur les risques.
Nicolas
c'est Nicolas. Non,
ah, Bernard. C'est pas le même alors.
Bernard.
Ah d'accord, c'est pas le même alors.
Non, Nicolas, il est né en 72, Bernard, il est né en 49.
D'accord.
C'est un ancien.
On va l'écouter en mars, là.
C'est un ancien directeur de l'INRA, un ancien PDG de l'INRA, oui, c'est vrai. C'est un ancien directeur de l'AFSA, je crois. Enfin bon, je veux dire, c'est un expert dans le domaine de l'évaluation. Et donc, en 2007, quand il a publié sa conférence, il y avait une vingtaine de formulations du principe de précaution qui n'étaient pas tellement cohérentes entre elles. Ça pose problème, tout de même. Alors lui, il a isolé deux versions. On va voir pourquoi il les a isolées, c'est assez vite vu. La version radicale, qui demande à ce qu'on inverse la charge de la preuve. D'habitude, l'expertise, elle introduit la charge, c'est-à-dire qu'elle va chercher à prouver l'existence d'un danger. Dans la version radicale, il est exigé de prouver l'innocuité, l'absence de danger. Bon, on sait bien que prouver une absence, c'est bien plus difficile que de prouver une présence. Il y a eu un problème là.
L'eau est liquide.
L'eau est liquide, ouais. Ouais, ouais. On est à 20 degrés, hein. Il faut fermer ça là, c'est ton. Bah, je fais Alt F4, tiens.
Non, mais c'est pas ça. C'est pareil, il a ouvert ta clé directement. Il fait sa vie, l'ordinateur.
Donc la version radicale, on sait qu'il n'est pas aisé, et même dans certains cas quasiment impossible, de prouver une inexistence. Prouver l'inexistence, c'est prouver que quelque chose n'existe pas. Comment est-ce qu'on fait pour prouver que quelque chose n'existe pas? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. D'où la version modérée, qui est celle qui a clairement sa préférence. Il s'agit d'intégrer l'incertitude propre au phénomène. Et l'Union européenne a proposé 4 critères. La proportionnalité entre sévérité et décision. C'est pas la peine de prendre une décision d'interdiction pour un produit qui ne présente pas un risque sévère. Hein. Il y a peut-être d'autres... La cohérence. Une interdiction selon le principe de précaution, sur la base d'un risque incertain, ne doit pas être plus dure que celle que celle prise au nom de la prévention d'un risque avéré. Autrement dit, ce serait incohérent d'interdire, sur la base du principe de précaution, un phénomène qui est incertain, alors qu'on va permettre un phénomène qui a une certaine probabilité, mais qu'on connaît, d'être... non seulement mesuré, mais utilisé. Il faut être cohérent. La réversibilité des décisions, en faisant évoluer l'incertitude à travers des recherches spécifiques ou des dispositifs de vigilance. Les deux pouvant être concomitants, hein, évidemment. C'est bien d'avoir un dispositif de vigilance, parce que la recherche n'est pas forcément sûre d'aboutir dans des délais raisonnables. Et introduire là, une analyse de coût-bénéfice, ou bénéfice-risque, si vous voulez, c'est la même chose. C'est particulier aux médicaments et aux produits phytosanitaires. Tiens. Excusez-moi, il y a eu un... Oui, c'est ça. On va essayer de le retrouver. Non, c'était pas là. Voilà. Donc, implication pour la décision du principe de précaution, il faut quand même être cohérent aussi. Le fait d'agir au nom d'un principe ne rend pas systématiquement la décision bonne. Un principe, c'est un principe, mais... Surtout le principe de précaution qui définit une incertitude. Pour l'expert, il faudra identifier de manière beaucoup plus large l'aléa. L'aléa, c'est-à-dire l'incertitude, hein, c'est la même chose. Lié à une innovation, recours à des panels d'experts, séance de brainstorming. Pourquoi ? Parce que le brainstorming, parce que justement, j'en ai pas.
Quoi ? C'est pas sur la bonne diapo, là, non ? C'est sur l'ancienne.
Comment ça se fait? Il m'a ouvert une deuxième version. Bon, il y a un problème. Hein. Bon. Désolé. il y a les, ben c'est ce que ça vient de faire. Il y a les aléas de.
Les aléas du direct, toujours.
Voilà. Exact. Sortie.
Ah.
C'est pas ce qui se passe, hein. Il cherche.
Je suis comme un esthéticien.
Oui, c'est ça. Désolé.
Je sors une souris.
Non, mais quand même, le. Voilà. On y est. C'est l'ordinateur qui s'est réveillé. Voilà.
Oui, c'est
ah merde. Voilà. On était ça. Hein?
C'est réel.
Mais attends, il va revenir. Oui, c'est ça.
Oh, ça aurait été chouette. Hein. Non, c'est là.
Ça faut bien séparer la science de la technologie.
Hein. Ah, province, non
ah. Et, tu vois, il y a le.
C'est bizarre.
Mais c'est rien.
Ça, c'est la souris. C'est la souris qui fait son.
J'ai recommencé carrément.
Mais c'est ce que j'ai fait. Non, il faut le mettre sur là. Diaporama. Voilà.
Non, rien. Tu as pas appuyé une fonction là, qui fait basculer
non.
sur.
Non, il cherche. Enfin, moi je veux bien appuyer. C'est laquelle pour le.
Je sais, j'évite de m'en servir parce qu'après on se.
C'est, combien c'est de temps FN. De...
Sinon, je change d'ordinateur. Tu vois là, tu as l'écran du PC uniquement, dupliqué, c'est pas ça?
C'est ça, c'est dupliqué.
Il y a toujours rien. Je comprends pas.
Dans un état de chien. Voilà.
C'est pas actif, je comprends rien.
Bon, c'est pas la bonne. Bon, et qu'est-ce que c'est que.
Je sais pas.
Garde.
Je sais pas, ça n'a jamais fait ça. Je
ça, j'en ai pas besoin. Pourquoi il m'ouvre deux fois la présentation ?
Elle est sur la clé, ta présentation.
Ouais. Non, elle est sur le bureau.
Ah, je l'ai mis sur le bureau. Elle s'appelle.
Qu'est-ce que l'expertise ?
C'est ça, oui.
Ah, si, je me suis dit que j'allais te la.
Oui, me la laisser, oui.
Te la laisser.
Reprendre là où vous êtes arrêté. Là.
Oui, mais c'est une diapositive de. Je ne vais pas se remettre en. Il n'y a pas eu de.
Non, on n'a rien touché, hein. Ou c'est l'ordi ou c'est.
Ah !
C'est quoi ? Alors là, j'ai. Avance.
Ouais, c'est ça. Voilà, on y est.
Voilà.
Implication pour la décision. Donc, c'est ce que j'ai dit, hein, le fait d'agir ou non d'un principe, qu'il soit de précaution ou pas, ne rend pas la décision bonne. Pour l'expert, il faudra identifier de manière beaucoup plus large l'aléa. Recours à des panels d'experts, parce que l'expert il a une spécialisation et il ne connaît pas tout. Donc c'est bien de se faire seconder. Et surtout, on l'a vu avec la définition des risques, des séances de brainstorming pour être sûr de ne pas en manquer. Fournir aux décideurs des éléments permettant de calibrer au mieux leurs décisions dans un éventail allant de, par exemple, ne rien faire, ça c'est pour les risques anodins, il n'y a pas de risque en fait, mettre en place des dispositifs de vigilance, une petite surveillance ça fait pas de mal, surtout s'il y a des évidences de problèmes, lancer des programmes de recherche ciblés. On a vu que les deux peuvent être concomitants avec les programmes de vigilance. Avertir la population d'un risque potentiel. Pour le politique, c'est bien de, s'il veut se faire réélire, d'avertir qu'il y a peut-être un problème potentiel. Décider des restrictions d'usage. C'est restrictions d'utilisation. Hein. Et interdire temporairement ou définitivement l'innovation. Ça, c'est l'éventail des décisions. Il y en a peut-être d'autres encore, mais c'est déjà pas mal. Alors, Chevassieux, lui, propose d'utiliser 4 concepts pour mesurer. Je vous rappelle que du risque tel qu'on l'avait défini, maintenant, il s'agit d'introduire la notion d'incertitude. Et il propose d'utiliser la plausibilité du risque, à ne pas confondre avec la probabilité, parce que la probabilité, le phénomène existe, mais son occurrence n'est pas certaine, tandis que la plausibilité, c'est... on ne sait pas si le phénomène existe. Hein. À qualifier selon la quantité d'informations disponibles, donc analyse bibliométrique, quantité d'informations, qualité de l'information, c'est-à-dire le consensus entre les experts, on a vu ça tout à l'heure, hein. Les experts peuvent se bouffer le nez parce qu'ils ne sont pas d'accord. Avec, lui, il propose 5 niveaux, validité des données contestées, alors là, c'est l'homéopathie. La mémoire de long. Analyse des données contestées, c'est-à-dire que le phénomène, les données sont valides, mais elles sont mal analysées. Ça, c'est typiquement un problème de statistique, et il y a beaucoup de scientifiques qui ne savent pas bien utiliser les stats. Ça, c'est clair. La représentativité du phénomène, par exemple, le modèle utilisé par Serralini, le modèle de souris utilisé par Serralini, n'était pas du tout représentatif. Toutes les souris, si on les laissait, elles développaient des cancers. Donc, va-t'en prouver que c'est à cause des OGM. Après ça, c'est pas possible. C'est pas sérieux. Ou pas de démonstration directe directe possible. Par exemple, on va pas infecter des êtres humains pour montrer que le SB est transmissible à l'homme. C'est pas très éthique. Donc, ça c'est le niveau 3 de représentativité du phénomène, la non cohérence entre les observations. Alors là, j'ai pas très bien compris, j'ai relu, mais lui il cite les effets biologiques des ondes électromagnétiques, pourquoi pas. Et surtout le niveau 5, proche du consensus, mais c'est la mesure de l'incertitude qui fait encore un petit peu problème, et la définition d'un intervalle de confiance dans lequel on risque de voir apparaître le risque. Et il propose une métrique pour définir la plausibilité, c'est-à-dire la quantité d'informations par la qualité. Deuxième paramètre, la réductibilité. Il va proposer qu'il y ait une meilleure évaluation des paramètres. Donc ça va impliquer un travail de recherche. Le risque est au vu des ce qui veut dire c'est que le risque au vu des connaissances et l'incertitude a une certaine valeur, et que en faisant des études complémentaires, en recherchant des modèles, on peut réduire l'étendue de l'incertitude et donc aboutir à une meilleure certitude. C'est ce qu'il appelle la réductibilité. Existence d'effets systémiques, interaction entre polluants, effet cocktail. Je rappelle que l'effet cocktail, il n'est pas général. Hein. On le connaît dans certains cas. C'est un collègue, entre autres, qui l'a publié, cet effet cocktail. Lui, quand on l'interroge, il vous répond, mais non, l'effet cocktail, c'est pas général. Hein. La plupart du temps, il faut une configuration très particulière entre la molécule et son récepteur pour voir apparaître l'effet cocktail. Sinon, on a un effet purement additif, tout simplement. Donc, dans la majorité des cas, on n'a pas d'effet cocktail. Et l'incertitude radicale, pas de déterminisme connu, processus chaotique, savoir que maintenant il y a quand même des programmes informatiques qui peut-être pourraient permettre d'aborder ce problème des systèmes chaotiques et de réduire aussi l'incertitude. L'observabilité, c'est la mise en place de dispositifs de vigilance, et la réversibilité des décisions avec une gamme qui peut aller de l'arrêt des effets néfastes si on retire un médicament, on retire l'AMM d'un médicament, à des impacts sur l'environnement pour lequel il sera plus difficile de revenir en arrière. Il faut être conscient de ça. Nous, on est très rationaliste par rapport aux OGM, mais il faut être conscient de ce qui peut entacher l'idée d'une utilisation des OGM en Europe. On sait que c'est pas autorisé normalement. Le risque zéro et les bénéfices risques. Puisque le risque zéro n'existe pas, quel avantage est-ce qu'on le prenne? Ça, c'est la question de base. Eh bien, l'avantage, ce sera de se soigner, par exemple. Alors, ça n'existe concrètement que pour les médicaments et les produits phytosanitaires. On peut faire, dans un cas, c'est le bénéfice pour la personne. Dans l'autre cas, c'est le bénéfice pour ses cultures, pour les cultures du paysan. Donc, on a un bénéfice, là, qui peut être mesuré. Au-delà de leurs effets, il existe une certaine toxicité pour tous ces produits. Le médicament, on sait qu'un médicament actif, a priori, c'est un médicament qui peut présenter des effets secondaires. C'est la formule traditionnellement utilisée. Ça implique un bilan comptable, c'est-à-dire de pouvoir mesurer à la fois l'effet positif et l'effet négatif. Il va falloir faire une comparaison et il va falloir définir une méthode de comparaison pour que les deux effets soient comparables. Dans le cas du médicament, c'est pas très difficile. On a la même personne et on voit si elle est malade ou si elle guérit. Donc a priori, le bénéfice et le risque sont pris par la même personne et les critiques qu'on a pu faire sur l'analyse du risque, je vous rappelle qu'on avait vu un certain nombre de critiques à la fois du grand public et de la science, sont tout à fait valables dans l'analyse du bénéfice, hein, oui, évidemment. Et ça aboutit à un nouvel espace de négociation dont il faut être conscient. Dans le premier cas, le rapport bénéfice-risque, risque-bénéfice augmente, c'est-à-dire que le risque augmente et le bénéfice n'augmente pas. Et il est évident que ça... on ne va pas le conserver. Non ? Interdit. La zone paisible, réduction des risques et augmentation des bénéfices, ça c'est le cas idéal. Vous avez un meilleur système qui réduit les risques et puis vous avez des bénéfices accrus, donc c'est facile à décider. La zone acceptable, bénéfices réduits, mais les risques sont encore plus. C'est le cas de la pasteurisation, par exemple. La pasteurisation, le bénéfice est peut-être réduit, c'est-à-dire qu'on va affecter les qualités du produit, de ce qu'on va avaler, de ce qu'on va manger. Les qualités organoleptiques, c'est comme ça que disent les scientifiques. Mais le risque va être encore plus réduit, puisqu'on va tuer, on va tuer les microbes. Donc la pasteurisation, c'est une zone acceptable. La zone hasardeuse, où le risque augmente, mais les bénéfices sont encore meilleurs. C'est les médicaments, c'est le riz doré, même s'il est difficile de faire entendre raison à Greenpeace, a priori, le riz doré est plutôt bénéfique. Même s'ils présentent des risques bénéfiques parce qu'ils soignent les déficits en vitamine A, hein, je vous rappelle. Implication pour la société civile. J'en suis où là ? Faut que je m'agite.
Midi,
ça fait combien de temps?
Jusqu'à midi et demi, tout compris, voilà. les précisions. Hein.
Voilà. Alors, je vous rappelle que le problème, c'est la crise de l'expertise. C'est-à-dire que dans le grand public, les experts ne sont plus acceptés, leur travail n'est plus accepté. C'est vrai aussi pour la science, encore que pas tout à fait. Il y a un sociologue qui montre que la science n'est pas vraiment affectée par la crise de l'expertise. L'interprétation traditionnelle que tout le monde fait, c'est déficit de communication. Il y a une crise de l'expertise. Le grand public n'a pas compris parce qu'on ne l'a pas bien informé. Eh bien, Chevassiot, lui, et probablement d'autres avec lui, font un postulat, c'est qu'experts et citoyens sont tous les deux des gens rationnels, mais qu'ils ont une rationalité différente. Et on va essayer de rapidement explorer cette rationalité différente des experts versus les citoyens. Et les arguments en particulier, c'est les populations les plus critiques, ce sont souvent les plus éduquées. C'est les gens qui ont fait des études. Pas forcément en science, mais qui ont fait des études, qui savent ce que c'est qu'un argument rationnel. Donc, et surtout, ça a été mesuré sur une trentaine de risques. On les a fait évaluer par la population. Et entre le risque avéré et le risque perçu, il y a 80% de corrélation. C'est une corrélation déjà forte. Avec une sous-estimation des risques forts et une légère surestimation des risques faibles. Ça, c'est parce que c'est... effectivement, on réduit l'intervalle. Hein. On n'a pas de mesure quand on est le grand public. On dit ce produit-là est dangereux. Enfin, je ne sais pas quel était le questionnaire, mais voilà. Donc, ils ont un langage différent qu'il va falloir prendre en compte pour établir un dialogue entre l'expert et les citoyens. Quand est-ce que la mesure de la probabilité est mise en défaut? Alors, on va faire quelques petits exercices, là, rigolos. Le premier, il est connu. La même date d'anniversaire dans un groupe. Si on a un groupe de 40 personnes, on demande au grand public est-ce qu'à votre avis, il y aura deux personnes qui ont la même date d'anniversaire? Ils vont répondre que non. Or, à partir de 40 personnes, on a 90% de chance, c'est énorme, d'avoir deux personnes qui ont la même date d'anniversaire.
Hein? Oui, c'est
énorme. Hein. Notre ancien trésorier nous avait fait le calcul. Michel Galtier.
Ce qui est con, c'est quand tu dis on est 40, ben, qui sont
8% de gens. Non, c'est vrai, c'est statistique. C'est statistique. Mais,
vous pouvez partir sur un groupe de 100 où tu as
98%, 99%. Alors. Le paradoxe de Saint-Pétersbourg, c'est un jeu. On vous propose 100 € plus une pièce pour jouer à pile ou face. 100 € et une pièce pour jouer à pile ou face. Vous jouez, si vous obtenez face au premier tirage, vous donnez 2 € à la banque et vous gardez les 98 € restants. Intéressant, hein, pour un pile ou face. Deuxième pile ou face, c'est-à-dire le premier tour, on est tombé sur pile et pas sur face. Deuxième pile ou face, si on tombe sur face, on va rendre 4 € et on va récupérer 96 €. Troisième, si on n'a toujours pas tiré le face, donc on est toujours sur le pile, on va tirer une troisième fois. Et si on le tire, on rend 8 € et on récupère 92 €, etc., etc. À votre avis? La conclusion est donnée là, mais enfin bon. La majeure partie des gens vont dire ben je joue. Or, bon, là je ne me suis pas penché sur le problème, il va falloir que j'aille rechercher un peu parce que ça m'intéresse ce genre de truc, mais j'ai pas eu le temps. C'est un jeu à espérance de perte infinie. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Vous risquez d'y laisser votre chemise. C'est si vous renouvelez le tirage, hein, évidemment. Hein. Déjà, à partir de 7 fois, on est sûr de perdre. La règle du jeu, je viens de la dire. Au premier tour, de pile ou face, si tu tires face, tu récupères...
Qui décide de ça ?
C'est le jeu, le paradoxe de Saint-Pétersbourg, c'est un jeu. Non, Michel, là on est dans la théorie des jeux. C'est des études théoriques qui visent à définir quand est-ce que une situation est acceptable ou pas. Il y a des jeux, et c'est pas intuitivement évident, la preuve avec le paradoxe de Saint-Pétersbourg, où en réalité on y laisserait la chemise.
On le fera tout à l'heure.
Mais il faut le refaire. Hein. C'est pas un seul tirage. Hein. C'est pas. Oui. Là c'est carrément plus radical.
Allez, continue là.
Deuxième dia de l'implication pour la société civile, dès qu'un problème est un peu complexe, l'approche intuitive, donc c'est la conclusion qu'on peut tirer des jeux présentés, l'approche intuitive diffère notamment de l'approche probabiliste. Sauf à faire le calcul probabiliste, ce que certains sont capables de faire mais pas tout le monde, on va avoir une différence. Par exemple, encore un jeu. On vous propose de recevoir 1 euro ou de jouer à pile ou face et de recevoir 3 euros en cas de gain. C'est-à-dire là, en l'occurrence, pile. On vous propose soit de vous donner 1 euro, soit de vous faire tirer à pile ou face, et si vous tirez pile, vous gagnez 3 euros. Si vous tirez face, vous ne gagnez rien. C'est plus intéressant. Les gens vont dire, j'ai joué là, 3 euros contre 1 euro, en moyenne on va gagner 1,5, donc on va jouer. Hein? Voilà. Oui, mais seulement, si maintenant au lieu de vous proposer 1 euro et 3 euros, on vous propose 100 000 euros et 300 000 euros, les gens ne jouent plus. Et pourtant, l'espérance de gain,
elle est totale.
Elle est de 150 000 euros, hein, c'est-à-dire plus que les 100 000 euros offerts au départ. Tu vois ?
On est sûr de gagner dans les deux cas.
Oui, on est sûr de gagner dans les deux cas. Mais il y a l'idée de maximiser le gain.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Le risque.
L'apéro s'y prêtera bien.
Ouais. Il en conclut que le risque défini comme le produit d'un impact par une probabilité, c'est le calcul traditionnel du risque, ne correspond pas à la perception du profane. En particulier, il n'accepte pas de compenser les impacts sévères par des probabilités faibles, car la vie n'est pas un jeu. Vous avez proposé la roulette russe. Hein ? C'est ça. Et on a abouti, alors ça, s'il y a un philosophe, et je sais qu'il y en a un, une proposition d'exposer sur Jean-Pierre Dupuis et la thèse du catastrophisme.
Éclairé. Oui. C'est une proposition.
Voilà. En fait,
modifier la perception du récit.
Voilà. Parce qu'il dit, c'est ce que je mets ici, mais si tu peux nous l'expliquer de manière plus détaillée, ce sera pas mal. Lorsqu'un événement lié à une technologie est susceptible de se produire avec une probabilité infime, donc on est très bas en probabilité, mais qu'il mettrait en péril tout ou partie de l'humanité, il ne faut pas jouer. C'est compréhensible. C'est-à-dire, hein, il y a une probabilité infime, mais elle existe quand même. Et là, en fait, les mathématiciens disent que le produit zéro par l'infini n'est pas déterminé. Donc on peut pas conclure. On ne peut pas conclure. Non, mais c'est... mettrait en péril. Non, le principe de Dupuis, le catastrophisme éclairé, c'est ça l'énoncé que j'ai trouvé dans le bouquin de Chevasseau et lui. Hein. Et... Vas-y, comment ?
Rapide. Ce cas-là qui est présenté, il a été pensé en particulier pour la question du nucléaire. Dans les cas où effectivement, enfin, ça n'applique pas qu'à ça, mais effectivement, où le risque que l'explosion, un truc irréversible, est très rare. Mais si ça arrive, effectivement, on rentre dans un problème élevé. Et du coup, ça a consisté effectivement à mettre en avant l'idée qu'il faut. Quelqu'un qui va en quelque sorte annoncer les catastrophes en sachant que celui qui prendrait ce rôle prendrait aussi le risque de toute la population, que la plupart des gens ensuite se retournent contre elle. Parce que, et ça, c'est le risque de celui qui ferait le prophète de malheur,
le Cassandre.
Et du coup, effectivement, il met en avant cette proposition du catastrophisme éclairé, c'est-à-dire de pointer.
Voilà.
Tu vois les catastrophes qui pourraient arriver, il faut qu'on les prenne en compte à l'avance. Ça ne veut dire pas forcément pour les reflétés, mais pour les penser. Alors moi, j'avais rencontré ce problème, depuis aussi, sur d'autres problèmes. Et en fait, il y a un petit problème, en gros. On peut jouer Dupuis contre Dupuis, comme je l'avais dit dans mon mémoire de philosophie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, en fixant des yeux la catastrophe, on ne voit pas forcément les processus qui y ont mené. Et du coup, alors qu'on voudrait éviter la catastrophe parce qu'elle ne nous plaît pas, on peut être en fait désarmé face aux processus qui y mènent qu'on ne voit plus. Donc il y a une limite en fait. Catastrophisme éclairé fonctionne bien pour pointer du doigt effectivement certaines catastrophes importantes. Mais si on se demande comment on peut empêcher ces catastrophes, eh ben, c'est pas la bonne technique parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas les processus qui y ont mené.
Mais là, si tu veux, il le présente dans le sens où on prend une décision basée sur une probabilité faible mais un risque gigantesque. On ne prend pas la décision de jouer. À ce propos, je vous signale qu'il y a une histoire qui est apparue sur le net. Vous savez qu'il existe un chronomètre de l'Apocalypse. Non, il existe un chronomètre de l'Apocalypse qui mesure la probabilité qu'on a de se détruire par un accident nucléaire, enfin par une guerre nucléaire. On est à 3 minutes de l'Apocalypse, je crois, actuellement. 3 minutes de l'Apocalypse. C'est pas beaucoup, hein. On est à 3 minutes de l'Apocalypse, hein. C'est vraiment très peu. Et sur le net, il est paru un article, une interview d'un officier russe qui avait entre les mains le destin de l'humanité.
Et oui, il y a eu l'émission là, plus voilà, ce mec, là.
Et qui a refusé d'appuyer sur le bouton. Qui a refusé d'appuyer sur le bouton et grand bien et il a eu raison. Parce qu'en fait, après, en consultant d'autres détecteurs que ceux qu'il avait, qui lui rendaient qui lui disaient que les États-Unis avaient envoyé une série de missiles. Hein. Ouais, grosso modo, c'était ça. Lui, il a soupçonné, en fait, qu'il y avait un problème, parce qu'il disait, il a tenu le raisonnement suivant. Si les États-Unis ont décidé d'attaquer la Russie, ils vont faire une attaque massive. Ça doit partir de tout le territoire américain. Or, les fusées ne partaient que d'une petite zone du territoire américain. Il s'est dit, là, il y a un truc. Il y a un bug. Et il a consulté, donc il a pas appuyé, il a pas mis au courant ses supérieurs, il n'a pas appuyé, il a été consulté d'autres détecteurs, et effectivement, c'est une erreur. On est passé tout près de la catastrophe. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça.
Hein? Le thème du film Wargames.
Oui, c'est le thème du film Wargames, c'est le thème du film de Kubrick,
Follamour,
le docteur Follamour.
Comment aimer la bombe.
Voilà. Non, mais je veux dire, ce sont des films. Là, c'est la réalité. Hein. 72 alors.
Je crois que c'est plus tard, c'est sous Brejnev déjà.
Hein. Ouais.
Sous Brejnev.
Oui, oui, oui.
Enfin bon.
Peut-être Sylvain Lucet, non
Moi, je ne sais plus la date.
Ça m'a
retraversé l'esprit quand il a parlé de risque nucléaire.
On a raté une grande opportunité. En fait.
C'est ça.
La résolution des problèmes.
Voilà.
Voilà.
Allez,
pour les donc
attention.
Pour résumer,
ouais. Laissons Patrick finir. Et puis,
j'en ai plus pour longtemps là. Pour résumer, pour l'expert, la répétition dans l'espace par des individus différents ou la répétition dans le temps par le même individu, c'est deux mesures équivalentes. Or, on sait bien que pour le jeu à la roulette russe, c'est pas du tout la même chose, et que le jour où il a déclenché la balle, eh bien, il n'y a plus de jeu du tout. Donc, pour l'individu, dans le cas où le risque est un décès, le même individu qui joue ou une série d'individus qui jouent, c'est pas la même chose. Donc, les qualités du risque pour l'approche profane, est-ce que le risque est assumé ou subi? En particulier, il montre que le risque connu, assumé, c'est-à-dire celui qui est pris par l'individu, est mieux toléré que celui qui est subi sans que lui soit la cause. Ça, c'est montré par des études de sociologie. Le risque est-il connu? Évidemment, le risque inconnu, c'est problématique. Et surtout, est-il perceptible? Et là, il fait une remarque intéressante. Par les sens qui servent de signaux d'alerte aux animaux, on est des animaux, hein, je vous rappelle, hein, évolués, mais on est des animaux. Et nous sommes donc des infirmes sensoriels, et la seule chose qui nous reste par rapport aux risques modernes, qui sont en général inodores, incolores, etc., c'est d'avoir un recours à l'information. Les effets sont-ils immédiats ou différés? Et avec le cas extrême du risque qui est transmis aux générations suivantes, c'était le cas d'un produit hormonal, non? Le distilbène, voilà. Qui a été transmis. Les effets néfastes ont été transmis aux générations suivantes et ça a produit des problèmes de fertilité, enfin de stabilité de la grossesse, en fait.
Pas les générations d'après, mais encore celles d'après.
Et celles d'après aussi, oui. Donc c'est pas un problème inventé, hein, ça existe. La sévérité du risque au niveau individuel. Bon. Les morts statistiques sont mieux acceptées que quelques cas référenciés à un cas individuel comme la listériose ou la grippe aviaire. Les morts statistiques, c'est par exemple les accidents de la route. Ça ne vous empêchera pas de prendre la route, hein. Et pourtant, vous risquez votre vie, tout le temps. Le potentiel catastrophique, les épidémiologistes anglais ont fait une évaluation sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob induite par l'ESB. Potentiellement induit par l'ESB, le risque, il oscillait entre 60 et 160 000. 60, hein, 60, pas 60 000, mais 60 malades et 160 000 malades. C'était ça leur fourchette. Oui, c'est grand. Alors, on savait pas, et on sait toujours pas, je crois, on a des soupçons, un certain nombre de soupçons convergents, mais je crois pas qu'on sache si l'ESB. Produit Creutzfeldt-Jakob. Oui, mais bon. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que l'opinion, quel chiffre elle a retenu? 160 000. Les nouveaux risques sont mal acceptés, de même que les cas rares. Ça, c'est plus bizarre. Les cas rares sont mal acceptés parce qu'ils sont considérés comme peu maîtrisés, alors qu'ils sont très rares. Là, j'en ai pas, j'ai pas la publier.
Les morts par requin, par exemple.
Par exemple. Voilà. Et le caractère juste ou injuste, à savoir, ceux qui créent le risque, sont-ils exposés eux-mêmes au même risque que le profane? Et c'est le cas particulier des produits exportés. Dans le cas où il y a une interdiction dans le pays d'origine et qu'il est exporté dans un autre pays. Par exemple, et justement sur la base de cet exemple, il cite l'exemple de l'alimentation, d'une production rurale consommée dans le cercle familial qui est volontaire, donc le risque est volontaire, c'est eux qui ont cultivé, connu, juste, ils ont cultivé, s'ils ont fait les sagouins, ils s'exposent à leur propre risque, à conséquence immédiate. S'ils mangent des champignons en particulier. Par rapport à une alimentation industrielle, par des opérateurs dispersés à travers le monde, le risque est inconnu, imperceptible, c'est le cas des additifs alimentaires, subi. En général, on n'est pas toujours en mesure de choisir, injuste et différé. Bon, voilà.
Tu as pas mis la notion, dans la perception du risque, de naturel ou produit par l'homme. Par exemple, les allergies. Il y a plein d'allergies liées au produit de citron. C'est ça le prix qu'il y a dans la nature. Et ça, on l'accepte. Par contre, dès qu'il y a un produit qui va être allergisant, qu'on va mettre dans un prix ou un truc, là, c'est le drame.
Voilà. C'est la même chose, oui. On est, si tu veux, un petit peu justement dans cette situation.
La perception naturelle ou pas naturelle.
Voilà. Mais ça revient à la production rurale versus la production industrielle. On est dans la même opposition, si tu veux. Hein. Alors, deux rationalités différentes, donc, hein, c'est ce que je vous ai dit. L'expert qui évalue un risque objectif, alors que le citoyen essaye de prévoir, de percevoir un risque pour lui et sa tribu. Sa famille. À partir d'informations forcément limitées, il n'a pas toutes les informations de l'expert. Le scientifique quantifie de manière unidimensionnelle, en général avec une équation du risque, permettant une comparaison des différents risques, alors que le citoyen essaye de repérer s'il s'agit d'un risque bon ou mauvais. Il y a des bons risques et des mauvais risques. L'expert évalue seulement le risque alors que le citoyen demande le bénéfice attendu, évidemment. Alors, encore une fois, ça ne s'applique qu'aux médicaments et aux pesticides. En ce qui concerne les objets de la vie courante qui ne sont pas consommés, en général, le politique va émettre un avis négatif, et puis l'objet disparaît du marché. C'est le cas, par exemple, des jouets chinois. Là. Donc,
il y avait des phtalates,
c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc la proposition, c'est il faudra non seulement faire interagir les citoyens avec les experts, ça semble acquis, mais aussi il faudra prendre en compte leurs rationalités différentes. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Alors par exemple, bon, le début, on va passer, trois dimensions majeures, ça a déjà été dit. Par contre, Michel Sedbon, c'est un article dans SPS. La critique de la science joue sur son incapacité à bien analyser les risques qu'elle crée en favorisant la productivité au détriment de la protection. Et ça, c'est ce qu'on observe en particulier dans le monde industriel. Il y a de plus en plus une prise de risque peut-être excessive de la part des industriels dans leur distribution de produits. Les scientifiques sont accusés de générer des risques, de ne pas les évaluer et anticiper correctement, et surtout d'exiger des preuves scientifiques pour en admettre la possible survenue. Ça vous dit rien, ça ? C'est nous. Hein ? On exige des preuves. Enfin, faut savoir quels risques on évalue, parce que il y a des risques pour lesquels on peut exiger des preuves, il y a d'autres, il faut comprendre aussi le profane. Et surtout, la dénonciation de la science en action ne vaut pas récusation du discours qu'elle entend démontrer, c'est-à-dire que le discours scientifique reste valide, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, Michel Sedbon, c'était celui dont je vous parlais, mais du monde possible qu'elle pourrait engendrer. Et ça, c'est pas toujours bien maîtrisé, même par les scientifiques. On parle pas des applications technologiques, mais même des applications scientifiques. Comment associer le citoyen ? Alors bon, je passe, mais... parce que les modèles étaient compliqués, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais vous pourrez, si vous choisissez d'aller d'acheter ce livre qui vaut 8 euros, pas cher, ça vous apprend. Non, non, je plaide pas pour ma paroisse, mais vraiment, il est remarquable.
Ça, c'est moi.
Voilà, c'est ça. Non, il est vraiment remarquable. Et ça vous apprendra plein de trucs, parce que moi, j'ai fait que tenter de résumer cette question de la prise de risque, hein, enfin, de l'évaluation du risque. Mais vraiment, c'est un spécialiste du risque, Chevassieu. Hein. Ça va venir sur la dernière. Donc, conclusion 1. Restaurer la confiance dans l'expertise, ça implique de passer... d'une analyse unidimensionnelle, hein, un risque égale un impact par une probabilité, à une analyse prenant en compte la sévérité, l'incertitude, la nature des risques émergents, aborder les questions d'acceptabilité, c'est-à-dire si le risque est jugé tolérable par le profane, et intégrer l'analyse coût-bénéfice quand elle est possible. Encore une fois, c'est valable pour les produits chimiques que sont les médicaments et les pesticides. Hein?
Pour le médicament, c'est pas facile non plus.
C'est pas facile non plus. Donc j'ai dit que ça n'est valide que dans le cadre des produits.
Des carottes et des abeilles,
voilà. Oui, je sais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Le bénéfice et le risque devraient être évalués de la même manière, et c'est pas forcément le cas. Bon, d'un système basé uniquement sur les faits établis à la prise en compte de risques plausibles, etc. Bon, enfin ça c'est un résumé de ce que je vous ai raconté. Je vais pas me répéter. Et surtout, alors ça, mauvaise attitude des rationalistes, et c'est Michel Sedbon encore qui a conclu comme ça, éviter la sempiternelle dénonciation de l'irrationalité du jugement perceptif profane. On a vu qu'en réalité, il est tout à fait rationnel, mais il n'a pas la rationalité de l'expert, il n'a pas la rationalité du scientifique. Il faut le comprendre pour pouvoir faire se rejoindre citoyens et scientifiques. Et c'est essentiel parce que, en fait, ceux qui détiennent la légitimité via les politiques, ce sont les citoyens, je vous rappelle. Le scientifique, lui, il ne fait que proposer, il fait une évaluation, il délivre un rapport. Mais il n'a aucune légitimité autre que son rôle de propre citoyen, proprement, enfin personnellement, pour décider si le produit doit être utilisé ou pas. Donc associer le citoyen. Et. On n'en a pas beaucoup parlé, mais formation. La formation des ingénieurs à la science en train de se faire. En France, c'est rare. Les ingénieurs ne passent jamais par un laboratoire. C'est catastrophique. Formation des politiques à la pratique du raisonnement scientifique, ça aussi c'est essentiel. Vous reconnaissez des conclusions qu'on a répétées. Hein. Accès des journalistes, magistrats à un carnet d'adresses scientifiques, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas forcément de connaître, mais d'avoir le réflexe d'aller chercher les experts là où ils sont. Formation du citoyen à la nature de la vie scientifique, et surtout, dernier, formation des experts et scientifiques aux règles du débat médiatique, et là, on est loin du compte.
Ouais.
On se fait rouler dans la farine à chaque fois qu'on a accès aux médias. Hein. Je vous rappelle. Hein. Donc, bon. Petite bibliographie, et le livre de Bernard Chevassieux-Louis, il est en tête. Analyse des risques, l'expert, le décideur, le citoyen, édition Cahier, 2007, et ça vaut 8 euros.
Donc c'est la collection Science à Question, et comme c'est l'édition QAE, pour ceux qui ont un accès.
Moi je le lis en version numérique en fait.
Voilà, pour ceux qui ont un accès aux revues scientifiques, que ce soit par l'université ou par d'autres moyens, normalement les éditions QAE, elles mettent effectivement leur contenu
en ligne
pour ceux qui ont ces accès-là.
Il faut payer ou... Moi je l'ai acheté en version numérique, ça m'a coûté 5,99 €.
Alors,
ça va, c'est trop rentable.
Je ne sais pas si on peut le télécharger ou le lire en ligne à partir de.
Ouais.
On peut le télécharger.
En ce qui concerne.
Tu peux nous l'envoyer par exemple.
Ça serait cool ça.
Moi j'en ai téléchargé des éditions.
Oui, mais moi j'ai pas accès. J'irai regarder sur. J'irai regarder sur des sites que je connais où on pourra les regarder. Le rapport sur l'éthique. Le rapport sur l'éthique de la COMETS, enfin du COMETS, c'est un comité d'éthique, je ne sais pas ce que veut dire le S, éthique et scientifique, éthique scientifique, mais. Expertise et éthique scientifique, c'est un rapport du CNRS à destination de ses propres experts, vous pouvez le télécharger très facilement, il est accessible librement et il est très intéressant. Mais je ne l'ai pas abordé parce que vous avez vu, déjà, là, j'ai pris tout mon temps pour vous expliquer ce que c'est que le risque et pourquoi il ne faut pas prendre les profanes pour des
abrutis.
Pour des abrutis, voilà. Donc je suis à votre disposition pour les questions.
On a 10 minutes, qu'est-ce que c'est ? Après, c'est pas trop. Non ? Allez. Allez, Alain, spécialement.
Alain, tu fais la modération ?